Philosophie morale, Père Philippe, 10 décembre 1982, Rimont.
Pouvez-vous traiter, s'il vous plaît, du problème épineux de la peine de mort? Pas maintenant. Parce qu'il n'y a personne à mourir pour le moment, donc ça ne presse pas. Pas encore. C'est un problème politique, pas d'éthique. C'est pour ça que je ne peux pas le traiter maintenant. Ça présuppose beaucoup d'autres choses. C'est un problème politique, la peine de mort. Pas éthique, hein. Vous n'avez pas le pouvoir de tuer votre voisin. Hein. Alors c'est un problème politique très très difficile à voir, et c'est très important de comprendre que c'est un problème politique. Parce qu'un problème politique est évidemment beaucoup plus dépendant de toute une série de circonstances, de faits. La politique est plus variable que l'éthique. L'éthique touche la finalité de l'homme. Donc il y a des principes. La politique, c'est le bien commun. C'est pas commode de préciser ce que c'est que le bien commun. Alors, c'est toute la question du bien commun, la peine de mort. Et on comprend très bien qu'en fonction des conceptions du bien commun, il y a des positions différentes. Tandis que l'éthique, elle repose sur la découverte de la finalité. Et c'est toujours très important, c'est pour ça que c'est très bon de poser les questions, parce que autrement on se charge de tas de trucs. Et c'est vrai que c'est toujours très important de voir qu'un problème doit être résolu en éthique, ou en politique, ou dans la philosophie du facere. Et c'est important de préciser cela, parce qu'alors tout de suite, la lumière est différente. La lumière est différente en politique, puisque c'est le bien commun. En éthique, c'est la finalité. En question du facere, c'est la question de l'œuvre. Oui. Alors, il faut préciser et bien saisir ce que représentent ces différentes perspectives. Parce que si on ne voit pas ces différentes perspectives, le problème n'est pas vu comme il doit être vu. Bon. Alors, nous étions donc arrivés au problème de l'intention morale. Je vous avais dit, ça commence par le problème de l'amour. Je vous avais dit qu'il fallait essayer de préciser. J'espère que tous vous avez réfléchi sur les diverses dimensions de l'amour. Alors, je vais y revenir, on m'a demandé d'y revenir. Alors, je vais quand même y revenir. Les dimensions de l'amour, c'est pas commode, hein. Faire une pneumatologie, comme dit Ricoeur. Alors, une pneumatologie, c'est-à-dire essayer de découvrir quelles sont les grandes dimensions de l'amour. Alors, à titre de recherche, j'ai le droit de le faire, hein. Je vois que dans l'écriture, l'amour est exprimé d'une manière symbolique. Alors, il y a toute une symbolique de l'amour qui serait intéressante à faire en théologie. Mais je peux montrer que la théologie, là, j'ai tout à fait le droit, parce que, au fond, l'amour est très développé du côté théologique, et donc j'ai le droit de partir de là, parce que c'est quelque chose de plus proche. Je vois qu'il y a le symbolisme du feu. Il y a le symbolisme du souffle. On pourrait dire qu'il y a aussi le symbolisme de l'eau. Il y a le symbolisme de l'aigle, il y a le symbolisme de la colombe, il y a le symbolisme du doigt de Dieu. Il y a le symbolisme de la voix. Ils sont nombreux les symbolismes par rapport à au mystère même. Vous voyez, j'ai 7 symbolismes là. Le feu, l'eau, le souffle, l'aigle, la colombe, le doigt de Dieu. Et puis, vous voyez, donc, il y a là quelque chose qui est important à saisir, comprendre comment, et puis la voix, hein, la voix. Il y a le doigt et la voix. On va mettre peut-être ça en parallèle. C'est intéressant de réfléchir sur ces différents symbolismes. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres symbolismes dans l'écriture. Hein. Donc, mettez le feu et l'eau. Il y a le symbolisme du souffle. Le souffle, c'est aussi un c'est l'air, mais je vais mieux mettre le souffle vital. Puis alors, il y a deux grands symbolismes, l'aigle et la colombe, ou la colombe et l'aigle. Ça, c'est les animaux qui sont particulièrement en connaturalité avec l'Esprit Saint. Et c'est juste. Et puis alors, il y a le doigt de l'homme, le doigt de Dieu, et la voix. Alors, est-ce que ces sept, ils symbolisent les sept dons du Saint-Esprit? C'est intéressant, toujours, là. J'en ai sept. Parce que les sept dons du Saint-Esprit, c'est quand même très intéressant de voir les sept dons du Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit font comprendre que, de fait, l'amour qui en Dieu est substantiellement un, dès qu'il quitte Dieu, tout de suite, il se disperse en sept. Ce sont les participations de l'Esprit de Dieu, les sept. Et là, vous voyez les sept symbolismes qui sont donnés à travers l'Écriture. Les sept symbolismes qui doivent correspondre aux sept dons du Saint-Esprit. J'ai dit qu'ils doivent correspondre aux dons du Saint-Esprit. Il faudrait essayer de comprendre. Ce n'est pas le rôle d'ici, parce que ça, ce serait la symbolique au point de vue de la théologie mystique. Au point de vue de la théologie mystique, pour essayer de comprendre ce que c'est que la théologie de l'amour, il faut évidemment se servir de ces symbolismes. L'amour ne se dit pas, mais s'exprime symboliquement. Et vous avez ces sept symbolismes. Et vous avez les sept dons du Saint-Esprit. Bon. Alors, essayons maintenant de au point de vue philosophique. J'ai parfaitement le droit de me servir de tout au plan philosophique. Et donc, au plan philosophique, j'ai le droit de regarder l'Écriture comme un livre assez extraordinaire qui est le livre de la révélation de l'amour. Et comme c'est le livre de la révélation de l'amour, je trouve à travers l'Écriture sept grands symbolismes. Je crois que ce sont les sept grands. Et puis je m'aperçois que de fait, j'ai les sept esprits de Dieu qui encore montrent les sept manières dont l'Esprit Saint se transmet. J'essaie maintenant de penser philosophiquement à cela. Puis, j'essaierai de voir si ça correspond à mon expérience. C'est rare que je fais ça, à partir de l'Écriture. Mais, étant donné que l'amour est quelque chose de particulièrement difficile à exprimer, et que j'essaie de comprendre toutes les dimensions de l'amour, je peux très bien le faire. Ce n'est pas du tout incorrect. Je sais ce que je fais en faisant ça. Je ne fais pas de la théologie. Je lis l'Écriture en philosophe. J'ai le droit de lire l'Écriture en philosophe. Parce que l'Écriture représente une grande tradition religieuse. J'ai parfaitement le droit de comprendre que, de fait, quand il s'agit de l'amour, c'est particulièrement important. Je sais que lire l'Écriture en philosophe, ce n'est pas l'ultime lecture. Ce n'est pas l'ultime lecture, mais c'est une lecture. C'est un livre intelligent. L'Écriture est un livre intelligent que je peux très bien lire de cette manière-là. Alors, j'essaie de saisir le feu. Je crois représente la violence. Il n'y a rien de plus violent que le feu. Ça représente la violence. Ça représente la violence et ça représente aussi le feu. La violence et le dynamisme. Ça va ensemble, le dynamisme. On peut dire que le feu, c'est très difficile d'arrêter le feu. C'est une des choses les plus difficiles d'arrêter. C'est la violence. Je crois que c'est ça la dimension première du feu. La dimension première de l'eau. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Ah, alors l'amour, il y a la vie. On va voir après, subitement, dans quelle mesure tout ça se tient. Le souffle, c'est aussi la force. Oui, j'aime mieux mettre la violence, le feu, et le souffle. Le souffle, c'est pas tellement la violence, c'est la force. C'est pas la même chose. Ça se tient, c'est pas la même chose. Pour être violent, il faut être fort, mais il y a des seins de violence qui expriment la force dans ce qu'elle a de plus excessif. Le point de vue de la colombe, ah, ça c'est la douceur. Saint Bernard dit ça admirablement. Disons. La colombe, c'est l'animal le plus doux qui soit. Et les pères de l'Église disent que c'est l'animal qui n'a pas de cervelle. Ah, c'est aussi très très joli ça. Parce que c'est aussi. C'est dit Ephraim qui n'a pas de cervelle, tu vois, qui n'a que la douceur. C'est très beau du reste. C'est la douceur avant tout. Le point de vue de l'aigle, alors là, le point de vue de l'aigle, c'est au contraire le grand élan. Je ne veux pas mettre encore la force, c'est autre chose que la force, l'aigle. L'aigle, c'est peut-être la force conquérante. D'une certaine manière. C'est difficile, hein, l'aigle. L'aigle, une espèce d'expérience très très violente de l'aigle. Ceux qui ont fait l'expérience de l'aigle qui vient auprès de ses petits, c'est l'aigle qui, dans toute sa force, connaît quelqu'un qui était épris des aigles et qui avait un très grand amour des aigles et qui a été encore dans les pays où on peut s'approcher des aigles, dans les Pyrénées, encore des lieux où on peut aller très proche des aigles. Et elle me racontait sa petite expérience, parce que moi, je n'ai pas cette expérience-là. Mais on peut se utiliser l'expérience des autres. Elle avait un désir énorme de s'approcher le plus possible de l'aigle. Alors on lui avait indiqué où il y avait des nids d'aigle. Là, en effet, il y avait des petits qui étaient là. Elle s'approchait. Et puis quand elle a vu l'aigle venir, elle a eu une frousse intense. Elle s'est aplatie par terre. Elle ne pouvait plus regarder. Alors qu'elle avait un très grand désir de regarder. Tellement fort que ça l'aplatit par terre. C'est très curieux, l'aigle, la violence de l'aigle. Alors, violence, force, pas seulement ça, pas seulement violence, force, parce que ça, alors j'aurais pas besoin d'autre chose, il y a pourtant l'aigle dit quelque chose d'autre. L'aigle dit quelque chose d'autre. Alors je crois qu'on peut dire que c'est une espèce de jalousie. La violence, on verra. L'aigle est jaloux. C'est du reste pour ça qu'elle a eu tellement peur. Jaloux de ses petits, hein? L'amour qu'il a pour ses petits. La jalousie implique la force et implique la violence. La jalousie, c'est l'intensité de l'amour qui veut l'unité de l'amour. Hein? Il y a une espèce d'unité. D'unité et le fait du non-partage. Le non-partage qu'exprime bien l'aigle. C'est un animal assez royal, l'aigle. Et donc, il non-partage. On ne permet pas le partage. Alors, la violence et les choses sont là de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a un rapt de l'aigle. Et il saisit la chose. Il saisit donc jalousie, unité, non-partage. Le doigt. Le doigt, c'est l'efficacité. Les tables de la loi sont écrites par le doigt de Dieu. C'est le commandement impératif que vous donnez dans votre doigt. Quand vous commandez un animal, sors d'ici, sale bête. Hein? Sors d'ici, c'est le commandement. Le commandement impératif se fait par le doigt. Et l'amour peut impliquer cette espèce d'autorité et ce commandement impératif. Donc, l'efficacité. Le doigt. C'est le commandement. Le commandement de Dieu, l'efficacité, c'est le doigt. Le point de vue de la voix, c'est le côté affectif. L'affectivité. Côté de la voix. L'affectivité. C'est évident que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus affectif et c'est source d'efficience. Les deux se tiennent. Bon, je crois que dans ces symbolismes, nous pouvons regarder ça, hein. Nous pouvons regarder ces différentes propriétés de l'amour. Alors, maintenant, opération plus délicate, parce que jusque-là, ça va encore, on a la possibilité de réfléchir, essayer de comprendre maintenant les dimensions de l'amour. Philosophiquement, je vais essayer, puis je vais voir si ça colle. Alors là, je réfléchis sur mon expérience. Mon expérience d'amour. Je sais que l'amour ne peut pas se définir, qu'il est ineffable. Ça, tous d'accord là-dessus. Alors, je vais me taire, hein? Non, je vais essayer de préciser. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'amour? Qu'est-ce qui commande en premier lieu le point de vue de l'amour? Eh bien, je crois qu'on peut dire que l'amour, en premier lieu, implique le point de vue extase. L'amour est extatique. C'est-à-dire que l'amour me fait sortir de moi. Ça, je crois que c'est ce qu'est le premier. L'amour me fait sortir de moi. Donc, il me fait me dépasser. L'extase, c'est ça, c'est le dépassement. L'amour me fait dépasser, me fait sortir de mes limites. Et il va au-devant du bien. C'est le bien qui m'attire. Causalité propre du bien, c'est de m'attirer, c'est l'attirance. L'attirance n'est pas l'amour, mais provoque l'amour. Le bien, mon bien, m'attire et me fait sortir de moi, aller au-devant de celui que j'aime. Donc c'est l'attraction, l'attirance. Et en même temps qu'il y a l'extase, l'amour produit, non pas une intase, mais vous comprenez bien, c'est le fait de l'immanence et le point de vue de l'accueil. L'immanence, j'allais dire l'intériorité. C'est vrai. Intériorité, extase. C'est comme les deux dimensions premières de l'amour. L'amour va provoquer une sortie et un recueillement. Il n'y a pas de recueillement sans amour. Et l'amour est vraiment cette sortie de moi-même. Je suis pris, je suis saisi, je suis pris par celui que j'aime, le bien qui m'attire. Et en même temps, je deviens capable de le recevoir. Vous voyez ce que Saint Jean dira, demeurez. Demeurez en moi et moi en vous. C'est le double mouvement de l'amour. C'est demeurer. Ça creuse en moi une capacité merveilleuse de recevoir. Je crois que c'est les deux notes premières de l'amour. L'amour me fait sortir de moi. Et là, je regarderai après, hein, d'après les symbolismes. Mais, parce qu'il faut toujours respecter les diverses manières de connaître. Hein. Il y a une manière symbolique de connaître l'amour, poétique, et la grande poésie de l'Esprit Saint, donc c'est la poésie de l'amour, et ça c'est important de comprendre ça. Et puis, essayer de voir ma propre expérience que j'ai. Et il faut ramener le symbolisme à l'expérience. Hein, vous comprenez bien, philosophiquement. Je ne m'appuie pas sur le symbolisme. J'aurais une philosophie poétique. Alors, c'est pas ça. Je m'appuie sur mon expérience. Quelle est la seconde grande dimension que j'ai de l'amour, au point de vue de mon expérience? Je m'aperçois que l'amour me rend vulnérable. La vulnérabilité. Dès que j'aime, je deviens vulnérable. C'est-à-dire que tout ce qui regarde celui que j'aime me blesse plus que moi-même. Très extraordinaire, ça, la vulnérabilité de l'amour. C'est très important. C'est très important. Dieu est vulnérable. J'aime beaucoup mieux dire que Dieu est vulnérable que dire que Dieu souffre. Vous voyez ? Souffrir, c'est métaphorique. Tandis que vulnérabilité, non, c'est pas métaphorique. Parce que celui qui aime est vulnérable. Il n'est plus inflexible. L'inflexibilité absolue, c'est contraire à l'amour. L'amour n'est pas comme ça inflexible. Il est vulnérable. Et il est vulnérable et en même temps, il vous donne une force. C'est pour ça qu'il y a les deux extrêmes, hein, exactement comme extase et intase. Hein. C'est intase, c'est justement montrer l'immanence, l'intériorité, le fait de demeurer. C'est les deux extrêmes. Et alors, vulnérabilité et force. Ça, je crois qu'on peut le dire. L'amour me rend vulnérable et l'amour me rend fort. Les deux aspects. L'amour va impliquer, troisièmement, vous dire après, si vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est très important, ça, hein, c'est très important, d'y réfléchir longuement. C'est en vue d'établir une métaphysique de l'amour, une philosophie de l'amour. Vous voyez ? Et c'est important en éthique, hein, parce que c'est le lieu, c'est le lieu. La philosophie, l'éthique, c'est le lieu de la philosophie de l'amour. Je ne ferai pas une philosophie de l'amour en métaphysique. C'est en éthique. C'est l'homme qui aime. Qui aime, qui est attiré vers un bien. Il est attiré vers un bien, et du fait même qu'il est attiré vers un bien qui est un bien spirituel, il y a en lui tout de suite, dès qu'il y a l'amour, il y a tout de suite en lui ses diverses dimensions. Il aime un bien spirituel, il aime un bien personnel, il aime une personne. Alors, c'est l'extase et le fait de demeurer, l'intériorité. Nous ne venons intérieurs que quand nous aimons. Un être de pure extériorité, c'est un être qui n'aime pas. Oui, c'est le point de vue de la vie. La vie implique l'immanence. Or, si la vie spirituelle se traduit par l'amour en premier lieu, ça implique nécessairement cette immanence. Et donc, cette immanence poussée à l'extrême, c'est l'intériorité. C'est... Tandis qu'au contraire, le monde physique est de la pure juxtaposition, de la pure extériorité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de repos. Tandis que là, dans l'intériorité, il y a un repos. L'amour permet de se reposer. Mais pour y mettre repos, ici, je crois qu'on peut mettre repos. C'est l'intériorité poussée à l'extrême implique ce repos. Ce recueillement, ce repos. Tandis que, et l'extase, c'est juste l'inverse. L'extase, c'est le dynamisme vers l'autre. C'est la brisure de toutes les limites. Alors, le point de vue de la vulnérabilité de la force, je crois que nous pouvons le dire, nous pouvons dire aussi violence. L'amour implique une violence. Alors, il faudrait voir si c'est impliqué dans l'extase. C'est autre chose, la violence. C'est autre chose. Mais alors, est-ce que la violence est la force ? Ça implique le point de vue de la violence et le point de vue de l'intimité. Je crois que nous pouvons mettre les deux, violence et intimité. Et vous voyez, c'est déjà moins, c'est moins fort que ces quatre mots. Il faudrait voir, alors après, on verra si on peut les ramener, hein. Je les donne d'abord, comme ça. Violence et intimité, c'est ce que nous devons faire. On décrit. Puis ensuite, on voit si on doit ramener ces différentes notes à ces quatre principales qui nous semblent être une chose vraiment première de la structure de l'amour. Extase, intériorité, vulnérabilité, force. Parce que la violence, vous comprenez que toute violence implique la force. Alors, l'amour implique une certaine violence, c'est vrai. Il implique toujours une certaine violence. Et implique en même temps une intériorité, une intimité. Et alors, l'intimité, ça peut se ramener à l'intériorité. Quelle différence a-t-il entre intimité et extériorité ? Alors, nous avons aussi la jalousie. L'amour implique la jalousie, l'amour jaloux. Je suis au-delà du point de vue moral ici, hein, du point de vue moral, de ce qu'on appelle la jalousie, hein, au point de vue pathologique ou au point de vue moral. Hein, parce qu'il y a des jalousies pathologiques et des jalousies morales. Faut bien les... Tandis qu'ici, je suis en face de quelque chose de beaucoup plus profond qui n'est pas pathologique et qui n'est pas moral, qui est plus profond. C'est l'amour fonde toute la morale. Alors, il y a le point de vue de la jalousie dans le sens que l'amour ne se partage pas. Ah, je crois qu'on doit le dire. L'amour ne se partage pas. L'amour a une forme d'unité. Et c'est pour ça qu'il est jaloux. Il a une force d'unité. La jalousie, le zèle. Ça se tient, la jalousie, le zèle. Alors on pourrait se demander si à côté de la jalousie et du zèle, il y a l'épanouissement. L'amour implique un certain épanouissement. Évidemment, là on pourrait dire que c'est l'aspect extatique porté vers. L'amour implique aussi la ferveur. Mais ici. La ferveur. La ferveur. Vous savez comment saint Thomas définit la ferveur, hein? La ferveur, c'est le lait qui bout, l'eau qui bout, ça fait soulever le couvercle. Et donc, ça fait sortir des limites de la casserole. C'est ça la ferveur, hein? Ça fait sortir des limites. C'est pour ça que c'est aussi extatique. Vous voyez? L'extase, la ferveur. Et pourtant, ferveur dit aussi quelque chose de spécial. C'est l'au-delà des limites. L'au-delà des limites, c'est la ferveur. L'amour n'a pas d'autre limite que l'amour. Parce qu'il implique la ferveur. L'amour n'implique pas d'autre limite que l'amour. L'amour ne peut pas être contenu par un autre. Il contient. Mais il n'est pas contenu. Il ne peut pas. C'est ça qui est très curieux dans le point de vue de la ferveur. La ferveur, et saint Thomas appellera aussi la liquéfaction. Hein. Il dit ça au point de vue de la passion, mais c'est très vrai, liquéfaction. L'amour liquifie notre cœur. C'est-à-dire qu'il fait que notre cœur n'a plus de rigidité. Ferveur, liquéfaction. Alors c'est difficile de préciser ce fait. Oui, c'est des limites. Hein. Limite, et là, c'est la rigidité. La rigidité. La rigidité de l'aspect de l'intégriste. Vous allez comprendre tout de suite. La rigidité d'intégriste. C'est une rigidité. C'est une rigidité absolue. Et alors, l'amour fait dépasser ça. Il y a quelque chose qui est au-delà de cela. Alors, l'amour implique un au-delà du temps. Quelque chose d'éternel. L'amour a quelque chose d'éternel. Quelque chose d'éternel, au-delà du temps. Et c'est vrai que l'amour est au-delà du temps. En tant qu'amour. On va voir, c'est une note essentielle. Vous pouvez mettre aussi le point de vue de la nécessité. L'amour s'impose comme une nécessité. Tout amour s'impose comme une nécessité. L'aspect inflexible de l'amour, plus terrible que le Shéol, l'inflexibilité de l'amour. On a dit au-delà de la rigidité, et il y a quelque chose de nécessaire dans l'amour, quelque chose d'inflexible. L'amour implique quelque chose d'inflexible. C'est quelque chose qui s'impose avec une très grande force. C'est proche de la jalousie. Hein. C'est très proche, l'inflexibilité de la nécessité. C'est quelque chose qui s'impose avec une force plus grande que toute autre force. Vous pouvez dire encore, on en est pas mal, hein, vous allez le réduire. Mais j'exprime l'aspect descriptif. Hein. Les 10 catégories de l'amour. Hein. Appliquez ça, les 10 catégories de l'amour. Tout amour implique cela. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a toutes ces notes-là. Les 10 prédicaments sont belges. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas du tout que les 10 prédicaments soient battus. Et ici, nous avions 7, mais on va voir après. Alors, il y a encore la surabondance de l'amour. L'amour est surabondant, toujours. Mais la surabondance de l'amour, ça se ramène peut-être à l'aspect ferveur. Pas encore la même chose, la surabondance de l'amour. Très. Il y a alors l'aspect très particulier de l'amour qui implique, on a dit l'unité, moi je mettrai ici la présence. 14. C'est pas pour aboutir à 14, mais c'est quand même ce qui m'intéresse. Oui, parce que vous avez 7, hein, ça vous permet d'être 14. Comme ça, ça vous permet de mettre des couples. Des couples. Hein. Qu'à quoi ? La responsabilité morale. La responsabilité bien après. C'est pas l'amour. Vous voyez ? Que je cherche, c'est le caractère propre de l'amour. La responsabilité, je suis tout à fait d'accord avec vous, la responsabilité ne va pas naître avec l'amour, la responsabilité va naître avec l'intention. C'est au niveau de l'intention que la responsabilité naît. C'est au niveau moral. Vous voyez ? C'est pas premier. Vous ne mettez pas une responsabilité en Dieu par rapport du Père, par rapport au Fils. Ça ne va pas. L'amour est au-delà de la responsabilité. Il fonde la responsabilité, tout à fait d'accord. Il fonde, mais ce n'est pas premier. Oui. Compassion. Très d'accord. Il fonde, mais ce n'est pas premier. Oui. Compassion, c'est aussi second, c'est par rapport à l'amour de quelqu'un blessé. C'est compassion. C'est pas premier. La fécondité, c'est la surabondance. Vous voyez, c'est du côté de l'efficacité, c'est du côté de la surabondance. La fécondité. Je veux bien mettre en surabondance ou fécondité. C'est lié. Hein. C'est lié. L'amour est fécond en lui-même, c'est la surabondance. Il y a une espèce d'éclatement. Mais tout à fait là, la fécondité, c'est vraiment au niveau de l'amour et c'est au niveau de la surabondance. C'est pour nous bien montrer surabondance, fécondité. Oui.
Le silence.
Silence avec la présence. Et c'est avec le repos. C'est même encore mieux avec le repos. Parce que vous voyez, le point de vue. Le mouvement engendre le bruit. Et dès que vous êtes en repos, vous êtes silencieux. Et l'amour implique le silence. Implique le repos, le silence. L'intériorité.
Le zen, la
jalousie. Le zen. Vous voyez, pour bien montrer ce que c'est que cette jalousie, c'est l'aspect de totalité de l'amour. Hein. L'amour ne... Vous voyez, ça touche le caractère inflexible. Oui. Mais c'est encore autre chose. C'est quand même des notes différentes. Dites, oui.
La noblesse et le secret.
La noblesse de l'amour, hein, comme tel. Est-ce que c'est vraiment... C'est le caractère qualitatif de l'amour. Hein, c'est la qualité de l'amour. C'est la noblesse. Je ne sais pas si au fond, ça se ramène à quelque chose là, mais je ne crois pas que c'est premier la noblesse. Vous voyez, la noblesse donne le caractère de l'amour relatif aux autres. Est-ce que ça ne se ramènerait pas à un des caractères de ce point de vue-là, au-delà du temps ? Quoi ?
À l'épanouissement. Oui, l'épanouissement, l'être parfaitement, c'est la qualité, c'est l'aspect qualitatif. C'est évident que l'amour est la qualité par excellence, mais est-ce qu'au fond, cette qualité de l'amour, la noblesse de l'amour, la nobilitas, comme dira saint Thomas, la nobilitas, le point de vue de la noblesse, est-ce que c'est un des caractères particuliers, ou est-ce que, d'une certaine manière, c'est l'amour en tant qu'il est qualité? Oui, en tant qu'il est la vie, alors il est la noblesse. Je ne crois pas qu'on puisse le traiter comme des propriétés. Vous voyez?
Le respect?
Non, c'est second. C'est du côté de la responsabilité. C'est du côté de la responsabilité, le respect. Je ne mettrai pas l'amour-respect comme première dimension de l'amour. Il faut réfléchir là-dessus. Hein. Je vous donne ça à titre de réflexion, c'est pour y réfléchir. C'est parce que c'est important d'essayer de comprendre ce que représente notre, dans une description de l'amour, ce que représentent toutes les dimensions de l'amour. Vous voyez, alors, ici, c'est ça qui serait très intéressant à faire, c'est de comprendre ce que notre expérience nous donne de l'amour, et ceci, les sept dimensions d'amour, du côté symbolique. Alors, comme c'est un symbole, le symbole est toujours très riche, et donc il est toujours polyvalent. Il ne peut pas se ramener uniquement une chose. Il est polyvalent, il a deux aspects toujours. Et là, on retrouverait les 14. Il sera intéressant. Oui. Au point de vue philosophique, c'est intéressant de redécouvrir, de fait, dans la symbolique, les 14 notes profondes de ce que vous découvrez de l'amour. Alors, il faudrait se demander ensuite pourquoi ces 7, 14, alors que du côté de détermination de l'être, c'est il est battu de l'être par l'amour. Hein. Vous voyez bien, il est. Parce que l'être et l'amour est surabondant, donc c'est tout à fait normal que les déterminations, les 10 déterminations de l'être sont battues par les 14 déterminations de l'amour. Oui.
Il y a un aspect qui n'est pas chiffré là.
Quel?
Nécessité, inflexibilité.
Ah oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. 12. J'ai mis ça à 12. Ensemble, la nécessité est toujours inflexible. C'est le propre de la nécessité, c'est de montrer le caractère inflexible. C'est pour ça que ça va ensemble, nécessité de l'amour ou inflexibilité de l'amour, c'est deux aspects, c'est les mêmes choses. L'amour est inflexible, c'est dit dans l'écriture. Vous voyez, l'amour est inflexible. Et c'est en ce sens-là qu'il peut apparaître de l'extérieur comme tyrannique. Il ne l'est pas, parce qu'en lui-même, il s'impose comme ça. Mais il s'impose caractère inflexible. Donc, nécessité.
Miséricordieux.
Non. Miséricordieux, c'est un amour second par rapport à la misère. Ce n'est pas l'amour premier.
Mais dans la mesure où il s'appuie le regard que j'ai si c'est un ami.
Oui, mais ça c'est moral. C'est pas l'amour au niveau premier, c'est comme la compassion. C'est parce qu'il caractérise. Je ne peux pas dire. Venez, si j'ai le point de vue, Dieu est amour. Bon. La compassion n'est pas en Dieu. La miséricorde n'est pas en Dieu. Elle est en Dieu, mais par rapport à la créature. Elle n'est pas par rapport à la très sainte Trinité. Tandis que je crois que je peux dire tous ces caractères par rapport à Dieu lui-même. C'est ça qui est merveilleux. L'amour est comme ça, il a ce caractère absolu. Oui, la miséricorde, je suis tout à fait d'accord, on mettra la miséricorde. La miséricorde présuppose la surabondance de l'amour, mais présuppose l'amour, la surabondance de l'amour par rapport aux misérables, par rapport aux pauvres. Oui. Je cherche tout simplement l'amour en moi. Donc, je donne ça à titre d'exemple, voyez, pour que vous compreniez tout de suite.
C'est pour que vous compreniez tout de suite que je me rends ça. C'est parce que j'essaie de comprendre l'amour, pas en moi-même, dans ce qu'il a d'absolu, dans ce qu'il a de premier, son premier jaillissement d'amour. Eh bien, la miséricorde n'est jamais le premier jaillissement d'amour. C'est toujours second. C'est pas premier. Il faut une surabondance d'amour pour qu'il y ait la miséricorde, mais la miséricorde n'est pas l'amour dans ce qu'il a de premier. Alors, à titre d'exemple, vous voyez, pour que vous compreniez, je dis, la miséricorde n'est pas en Dieu. En Dieu, il n'y a que la ferveur première de l'amour. Il n'y a que le feu. La ferveur première de l'amour. Oui. Tandis que les conséquences de l'amour, alors là, je vois très bien les conséquences de l'amour. Je vois, il y en a des quantités, alors là, on irait très loin. Ce que je cherche ici, vous voyez, c'est les dimensions immédiates de l'amour. Les dimensions immédiates de l'amour. L'amour, dès qu'il est là, implique ces 14 dimensions. C'est vrai, hein, je cherche, je n'oserais pas l'affirmer de façon absolue. Dans la mesure où ça correspondra, je dis dans la mesure, hein, dans la mesure où ça correspondra aux 7 grands symbolismes, alors là, il y a des chances que ça touche quelque chose de très profond. Mais c'est des confirmations, c'est pas directement, c'est pas ça qui va me donner la... Mais c'est une confirmation pour moi, en tant que les 7 grands symbolismes de l'amour, en tant que les 7 dons du Saint-Esprit correspondent aux 7 symbolismes, vous voyez, et qu'il y a de ces correspondances. Alors là, ça aide, vous voyez, ça fait partie de ces correspondances qui ne sont pas immédiatement données, mais qui sont des confirmations.
Sacrifice et conséquences.
Oui, c'est l'amour religieux, ça, c'est très bien. C'est l'amour religieux, c'est pas l'amour. Le sacrifice, alors, c'est l'offrande de soi, vous voyez, l'offrande de soi comme telle. Alors, ça peut être la ferveur ou le dépassement des limites. Ça peut être ça. Oui. C'est vrai, le sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait amour. Le dépassement des limites. C'est pas à l'intérieur. Alors là aussi, confirmation, Dieu n'est pas le sacrifice. Je ne dirais pas qu'il y a un sacrifice en Dieu. Pour qu'il y ait sacrifice, il fallait que l'humanité soit jointe à Dieu, pour que le sacrifice soit en Dieu. Alors là, c'est l'humanité jointe en Dieu qui permet le sacrifice. C'est comme la pauvreté. Hein, la pauvreté, l'amour implique la pauvreté, le don du Saint-Esprit, la pauvreté. Mais je ne l'ai pas mis parce qu'au fond, la pauvreté, c'est quoi? C'est la vulnérabilité. Oui. J'aime mieux mettre la vulnérabilité que la pauvreté, parce que c'est vrai que l'amour rend vulnérable. Alors, dès qu'il est en dehors de Dieu, c'est la pauvreté. Mais dès l'amour en lui-même rend vulnérable, c'est sûr, il est vulnérable, c'est ça qui est très curieux, et ce n'est pas extérieur à l'amour. Donc, réfléchissez sur ça, parce que ça vaut la peine. C'est un très beau thème de réflexion, vous voyez, et c'est un très beau thème de réflexion au point de vue proprement philosophique pour essayer de saisir ce que représente cette métaphysique. Et alors ça nous aiderait énormément dans la mesure où c'est exact, ça nous aiderait énormément à comprendre tout ce que c'est que la théologie mystique. Vous voyez, parce que la théologie mystique est à base de ces 14 dimensions de l'amour. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.